Radio Kapi.
Oh, Kapi. Pascal Masirika à la présentation.
À la une ce soir, publication à Kinshasa des meilleurs lauréats des examens d'État du Congo central. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique révèle que Mwamba Mwaka a obtenu 72% en maths physique, Dieuvoix tout en délai 76% en biochimie et Mademoiselle Fatih Nkongolo 78%. Justin Bitakwira, leader des Bafouliru, appelle les habitants d'Ouvira de Fizio de Mwenga à ne pas céder à l'intoxication de ceux qui distillent des messages de haine. De son côté, Enoch Sebineza de Banyamulenge plaide pour l'éradication des groupes armés étrangers qui massacrent les Congolais. Notre invitée, c'est la coordinatrice de la solidarité des femmes pour la paix et le développement intégral, Julienne Lusenge, co-préside la commission d'enquête indépendante sur les allégations d'exploitation et d'abus sexuels survenus lors de la 10e épidémie du virus Ebola au Nord Kivu et en Ituri. Madame, Messieurs, bonsoir. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a publié ce mercredi sur son compte Twitter la liste de meilleurs lauréats des examens d'État de la province du Congo central. Pour l'option commerciale et gestion, Monsieur Mwamba Mwaka Manassé du complexe scolaire Mont Tshitenge, la cadette, a obtenu 72% option maths physique. Monsieur Toutondele Monsiloulou Dieuvois de l'Institut de la Silou, 76% option biochimie. Mademoiselle Nkongolo Fadi de l'Institut Mwanze à Valéa a obtenu 78%. La suite des autres meilleurs lauréats de la province avec vous, Alain Rungmouchij.
Option pédagogie générale, Monsieur Ntoto Keba Dieu merci de l'Institut Loma, 78%. Ex-aequo avec Monsieur Bazola Zola Gloire de l'Institut Boulambassa, 78%. Option normale, Monsieur Lusakweno Masenga Nimrod, 70%. Option latin philosophie, Monsieur Makodila Ntoni Bien-Aimé du Petit Séminaire de l'Infou, 74%. Mathématiques physiques, Mademoiselle Kimfu Mundonga Lamanassé du Collège Kubama, 71%. Ex-aequo avec Mademoiselle Alimesi Yamaya Genovi du Collège Kubama, 71%. Chimie-biologie, Mademoiselle Eyenga Berthe du lycée Tuzayana, 77%. Pédagogie générale, Monsieur Bokande Jules de l'Institut technique Kisaka, 75%. Ex-aequo avec Mademoiselle Onopese Anaendo Beni du lycée Kivuvu Kisiama, 75%. Ainsi que Mademoiselle Bagenda Komba Ruth du lycée Kivuvu Kisiama, 75%. Commercial et gestion, Mademoiselle Lemba Malemba Joyce du lycée Notre-Dame de Kisantu, 76%.
Merci Alain Irungmouchij pour ces précisions. Pendant ces temps en Mbandaka, depuis la rentrée scolaire, les activités sont encore timides dans les écoles publiques de la ville. Les chefs d'établissement du ressort, les administratifs et quelques enseignants sont en place. Ce sont plutôt les élèves qui sont absents. Le directeur provincial de l'EPST Équateur invite les élèves et les enseignants hésitants à venir à l'école. En Mbandaka, c'est une correspondance de Paul Richard Malengela.
72 heures après la rentrée officielle des classes en Mbandaka, nous avons constaté un silence de cimetière dans la plupart des écoles publiques que nous avons visitées. Les élèves étaient rares, très rares même. À peine des chefs d'établissement étaient présents avec quelques enseignants. À l'épée Lieke, le directeur Alphonse Lomo déplore l'absence des élèves.
Oui, nous avons su à la radio, à l'église, qu'il y a la grève. Mais les enseignants sont là. Par exemple, chez nous, ils sont là, ils sont en train maintenant de préparer leurs documents. Malheureusement que les enfants ne sont pas là.
Même doléances enregistrées aux écoles Bokomboji, Liziba, Liboke Moko, Libanga et Elikia. En cause, a expliqué la sœur directrice de l'EP Elikia 1, l'appel à la grève par le syndicat des enseignants et non par l'église catholique Gertrude Dubahanza.
Moi, je n'ai reçu aucune lettre de la part de l'église. Ce n'est que les syndicats qui avaient envoyé des lettres. Ils ont fait passer des communiqués aussi dans les églises. C'est les syndicalistes qui ont fait passer ces communiqués. Moi, je demande aux parents d'envoyer les enfants pour qu'on puisse débuter.
En revanche, la rentrée scolaire est effective dans le secteur privé. C'est le cas au collège Mputu Cité 3, situé en Bandaka 1, comme le témoigne le directeur.
Dès la première journée, on a reçu plus de 50 élèves. Deuxième journée, on a reçu plus de 70 élèves. Aujourd'hui, la troisième journée, on est déjà à 80 élèves.
Au regard de cette reprise timide, le directeur provincial de l'EPST Équateur 1, Hervé Mungeta, a lancé ce mardi une invitation à tous les enseignants de reprendre le service, tout en poursuivant leurs revendications. Mbandaka, Paul Chamalingué, la radio Okapi.
Maîtriser les effectifs de la fonction publique, c'est la priorité du vice-premier ministre et ministre de la fonction publique. Jean-Pierre Liaou l'a déclaré ce mardi lors d'une conférence de presse conjointement animée avec son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaya. Il a annoncé la création d'un fichier de référence avec des données incorruptibles. Ses propos ont été recueillis par Paul Matendo.
À notre arrivée à la tête de ces ministères, nous avons trouvé l'administration publique dans une situation catastrophique, avec évidemment de multiples pathologies. D'abord, il y a l'obsolescence du cadre juridique, les recrutements non planifiés. Devant ces tableaux plutôt sombres, la réforme que nous pilotons prévoit une série de thérapies. D'abord, concernant la maîtrise des effectifs. La priorité des priorités, c'est donc de maîtriser les effectifs. Pour ce faire, nous avons créé un fichier de référence de l'administration publique, avec à la clé le recensement biométrique. Après, on s'est rendu compte que les listes déclaratives par emboîtement qui ont été transmises par les administrations diverses étaient corrompues, n'étaient pas fiables. Il fallait donc les numériser. Dans un premier temps, ça a été informatisé. Pour essayer, in fine, d'avoir un fichier fiable avec des données impossibles d'être corrompues.
Autre nouvelle en plus bref, initialement prévue ce mercredi à l'Assemblée nationale, ici à Kinshasa, la plénière sur la taxe RAM a été reportée à une date ultérieure, au motif que depuis hier mardi, une vive tension règne entre ceux qui soutiennent RAM et ceux qui s'y opposent. Certains députés nationaux et des membres de la société civile ont même dénoncé une probable instrumentalisation des motards et des étudiants pour empêcher la tenue de la plénière. Autre nouvelle sur Radio Okapi au Sud Kivu, plusieurs appels à la paix et à la modération sont lancés ce jour-ci par plusieurs notables d'Uvira. C'est suite aux messages de haine qui ont envahi les réseaux sociaux ces derniers jours. Justin Bitakwira, leader de la communauté des Bafuliru, demande à toutes les communautés vivant dans les moyens et au plateau d'Uvira de Fizieux de Mwenga de ne pas céder à l'intoxication de ceux qui dissient ces messages. Il appelle à la cohabitation pacifique. On l'écoute au micro de Kélinkouté.
En tant que notable, tout leader politique, je n'ai jamais appelé à une quelconque haine tribale. Vous savez, je suis parmi les témoins de l'histoire. Comment nos frères Banyamulenge, on a grandi ensemble, on a étudié ensemble, on vivait bien en paix. Et nous avions des familles amies. J'appelle les gens à la paix, je suis un partisan de paix. J'appelle les gens à la cohésion sociale. Quant aux citoyens, je suis sûr, nous cohabitons, nous vivons ensemble, nous fréquentons les mêmes marchés, nous fréquentons les mêmes écoles. Que ceux qui attisent le feu dans leur communauté arrêtent et qu'on arrête de falsifier l'histoire du Kivu, que la vraie histoire soit écrite et nous allons vivre en paix comme à l'époque. Et j'appelle encore une fois tout le monde à la cohésion et à la paix.
Pour sa part, Enoch Sebineza de la communauté des Banyamulenge appelle les jeunes et les leaders politiques des différentes communautés du Sud Kivu à la tolérance. Il demande au gouvernement central de sécuriser les habitants d'Uvira et d'éradiquer les groupes armés étrangers qui profitent de la situation pour massacrer les Congolais. Il a été joint également par Kélinkouté.
Ce que nous pouvons dire à ce niveau, c'est un appel pressant à tout le monde, surtout aux jeunes qui consomment les messages de haine qui sont récemment très distillés dans les réseaux sociaux. Nous leur demandons de se retirer de ce carnage puisqu'on a toujours vécu ensemble. Mettons nos efforts dans la construction que dans la destruction. On a besoin des efforts de tous. Faisons un dialogue sincère. Je profite de votre micro pour interpeller le gouvernement, les forces de sécurité, puisque la sécurité de tout le monde dépend de ces forces de sécurité qui parfois observent, parfois n'arrivent pas à maîtriser les fauteurs de troubles. Vous savez, il y a même des groupes armés étrangers qui tissent des alliances avec les groupes armés locaux. Le gouvernement doit les éradiquer, les chasser de notre territoire, puisque parfois les groupes nationaux reposent aussi ces forces étrangères qui nous déracinent tous et finalement qui nous détruisent tous.
Dans l'actualité, il y a également ces affrontements survenus ce matin à Ngongo, un village situé à 18 km de la ville de Bunia entre les FRDC et la coalition de la FPIC et de la CODECO. Le bilan dressé par la société civile locale fait état de 6 civils tués. Pour le moment, la population vit dans la psychose. Le récit de Martial Kizabiamungu.
C'est vers 4 heures locales que des détonations d'armes légères et lourdes à provenance de Ngongo et Mwanga ont été entendues au quartier Kanyasi et Kolomani, ici à Bunia. Plusieurs sources concordantes affirment que les militaires FRDC ont été surpris par les assaillants de la coalition des FPIC et de la CODECO en Ngongo, à seulement une dizaine de kilomètres au nord-ouest de Bunia. Toujours selon la même source, les forces loyalistes ont réussi à déjouer cette attaque. Jusqu'à 9 heures locales, des combats se poursuivaient encore dans la zone, affirmait plusieurs sources. La société civile du secteur de Wayendoujati Sud indique que dans cette confusion, 6 civils ont été touchés par balles perdues et sont morts, dont 3 taximens, 2 enfants et une vieille femme. Ici à Bunia, deux militaires FRDC avec des chars de combat sont visibles depuis le matin au centre-ville en état d'alerte. Pour le moment, les FRDC ne se sont pas encore prononcés sur ces combats. Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Olomami, des décès communautaires non dénombrés sont enregistrés ce jour-ci dans la cité de Lubao. La tranche d'âge la plus touchée est celle des enfants de 0 à 5 ans. Le médecin intérimaire, le médecin chef de la zone de santé intérimaire affirme à Radio Okapi que c'est suite à la grève des infirmiers. Dr Willy Kalonda déplore le fait que certains malades font de l'automédication, d'autres vont dans des églises, d'autres encore arrivent à l'hôpital dans un état d'anémie critique. Il a été joint par Esther Ndalafine.
Les infirmiers sont passés en grève, tous les centres de santé sont fermés. Cette situation de grève des infirmiers a fait que les taux de décès au niveau de la santé puissent augmenter. Les cas pour le moment se passent beaucoup plus dans la communauté. C'est ainsi que beaucoup de gens préfèrent maintenant aller dans des églises et aussi faire l'automédication et utiliser des tisanes. La situation a fait que les décès puissent beaucoup plus augmenter au niveau de la cité de Lubao. Quand vous voyez les malades qu'on nous amène, souvent ce sont des malades qui sont au stade terminal de la maladie. Et quand on voit même les causes de tous ces décès, beaucoup plus l'anémie. Et la tranche d'âge, la plus dernière, ce sont les enfants de 0 à 5 ans. Les deux dernières semaines, nous avons enregistré, hormis la maternité, on a eu pratiquement 7 décès pour 2 semaines. C'est un chiffre alarmant, puisque quand on voit le nombre de malades que nous avons reçus par rapport aux décès, c'est que nous sommes au-delà des 30% des malades hospitalisés qui sont décédés. Et c'est un taux trop important. S'il y a un malade, c'est mieux de l'amener au niveau de l'hôpital et les médecins vont faire ce qu'ils peuvent faire.
L'association des démocrates fascistes organise depuis lundi dernier une campagne de circoncision gratuite des habitants du quartier Kamatete dans la commune annexe à Lubumbashi. 600 enfants sont attendus. Radio Okapi Lubumbashi, Jean Gandou.
C'est à l'issue d'une enquête menée par les membres de l'association qu'il a été constaté que la plupart des jeunes garçons de ce quartier périphérique de la ville de Lubumbashi sont encore incirconcis. Plusieurs parents indiquent que c'est par manque d'argent que leurs enfants sont dans cet état. Et c'est pour remédier à cette difficulté que les organisateurs tiennent cette campagne dont les frais sont entièrement pris en charge par l'association. Initialement prévu pour 10 circoncisions par jour, l'engouement observé oblige les organisateurs à passer de 10 à 20 cas par jour. Au bout d'un mois, ce sont 600 enfants qui seront circoncis. Déjà, plusieurs parents ont salué cette initiative qui est venue résoudre un problème qui les tourmentait. Les habitants du quartier Kamatete intéressés par cette campagne sont appelés à se faire enregistrer à la clinique Betsaïd Azoué où sont circoncis les enfants avant d'être programmés. À noter que même les hommes avancés en âge, qui sont encore incirconcis, sont aussi attendus, a indiqué Thérèse Toumba, présidente urbaine de l'association pour la ville de Lubumbashi. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
On enchaîne avec cette autre nouvelle. Les États-Unis d'Amérique sollicitent la RDC pour des investissements des compagnies privées américaines dans la préservation de l'environnement. Un envoyé spécial adjoint du président américain chargé du changement climatique a présenté tour à tour hier mardi à Kinshasa projets des compagnies au président Félix Tshisekedi et au ministre de l'aménagement du territoire Guy Luando. D'après Jonathan Pershing, la RDC a d'importantes opportunités dans la lutte contre les changements climatiques, notamment dans la forêt, le bassin du Congo avec la tourbière. Billy Valutumba nous propose tout de suite un extrait de sa déclaration après l'échange avec le chef de l'État.
Nous avons un bon discours avec le président, donc il était très engagé de ce sujet. Nous avons discuté un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ce pays, avec la forêt, avec l'énergie, avec la possibilité d'avoir une augmentation entre les États-Unis et le Congo dans ce secteur, le climat, le changement climatique. Nous avons aussi discuté un petit peu les impacts dans les peuples, dans les gens qui habitent dans le village rural, dans la forêt, dans la ville. Qu'est-ce que se passe avec eux? Avec le changement. Donc il y a des progrès avec l'échangement des experts. Il y a la possibilité d'avoir d'investissement ici au Congo, avec nos compagnies privées. Il y a des opportunités d'avoir le cartographie, les choses pour faire le mapping sur les géologues et aussi pour le forêt. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui sont simples, qui sont directes, qui sont rapides et qui sont avancées le développement de Congo.
Actualité internationale.
À la demande du président français Emmanuel Macron, le partenariat avec les États-Unis était dîné entre les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne réunis en Slovénie pour un sommet informel consacré exclusivement à l'élargissement aux 6 pays des Balkans occidentaux. Et puis le chef de la force française Barkhane a été reçu mardi après-midi par le ministre malien de la Défense nationale, le colonel Sadio Camara, pour évoquer la poursuite de l'engagement français au Mali. L'objectif du général français était de rassurer sur la réorganisation du dispositif militaire en cours. Au même moment, dans un autre bureau de la capitale malienne, la tonalité était très différente puisque le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, convoquait l'ambassadeur de France à la suite, cette fois, des propos tenus le matin par le président français Emmanuel Macron.
L'invité.
Notre invitée, c'est la coordonnatrice de la solidarité des femmes pour le développement et la paix intégrale, Madame Julienne Lusenge, co-préside la commission indépendante d'enquête sur les allégations d'exploitation et d'abus sexuels lors de la 10e épidémie du virus Ebola au Nord Kivu et en Ituri. Elle s'entretient avec Bernard Nanyangi.
Madame Julienne Lusenge, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez co-présidé la commission là. D'abord, comment vous êtes parvenue à être impliquée dans cette enquête là?
J'ai été nommée par le DG de l'OMS à cause de ces allégations qui ont apparu dans la presse. Et comme c'est ma lutte de chaque jour, j'ai accepté et je me suis engagée de co-présider la commission.
Et quels sont les résultats?
Oui, la commission a travaillé, a été constituée de 2 co-présidentes et 3 membres. Et nous avons travaillé bénévolement pendant 12 mois. Donc, nous avons recruté une organisation qui a l'expérience dans les investigations. Et l'organisation a fait 5 visites sur le terrain. Une à Goma, 3 à Beni, une à Bunia et une à Butembo. Ils ont même fait des appels à distance pour chercher les informations. L'OMS a transmis à notre équipe d'examen plus ou moins 600 000 documents. Et l'équipe d'examen a regardé et a tiré les informations là-dessus. Donc, tout ça à aider l'équipe d'examen à nous donner les éléments de rapport. Et aussi, l'équipe d'examen a aussi écouté les présumés auteurs. Sur 83, on a écouté quelques-uns. En tout, nous avons eu comme conclusion, il y a eu vraiment l'exploitation et abus sexuels pendant la 10e pandémie d'Ebola dans le Nord Kivu, donc à Beni et à Ituri. En plus de ça, il y a eu aussi des faiblesses, des négligences dans la mise en œuvre des procédures et des politiques de l'OMS pour combattre l'exploitation et les abus sexuels. Nous avons aussi remarqué qu'il n'y avait pas seulement les agents de l'OMS. Il y a aussi les autres agences des Nations Unies qui ont travaillé dans la riposte. Il y a aussi le ministère de la Santé qui a déployé du personnel qui sont venus de partout, qui sont venus aussi travailler, qui sont impliqués aussi. Nous avons formulé des recommandations, 21 recommandations. Il faudrait que l'OMS puisse réformer sa structure, de mettre une bonne coordination sur le terrain et le bureau régional et aussi le siège pour que chaque fois les informations puissent passer directement. Nous avons aussi recommandé à l'OMS d'approfondir les enquêtes et de poursuivre les auteurs, qu'ils soient congolais, qu'ils soient étrangers et qu'il y ait des réparations pour les victimes. Il y a des enfants qui sont nés de ces actes. Nous espérons que l'OMS va vraiment prendre en charge. C'est très important parce que les victimes, ils ont dit à notre équipe d'examen, qu'elles n'ont jamais eu d'assistance, bien qu'elles ont traversé cette expérience dégradante.
Et le gros, c'est à Beni, c'est à Butembo, c'est aussi à Neto.
Le gros, c'est à Beni. C'est à Beni. Et bien sûr, nous ne disons pas que nous avons atteint toutes les victimes parce que nous n'avions pas assez de temps pour faire ces enquêtes et arriver à contacter toutes les victimes. Nous avons lancé un appel un numéro était là pour que les gens qui ont des informations puissent apporter les informations. Il y a même des hommes qui ont témoigné que le programme de la riposte à la 10e épidémie d'Ebola a aussi impacté négativement sur leur foyer. Il y a des foyers, des ménages qui ont été déstabilisés à cause de l'exploitation et abus sexuels. Des femmes qui nous ont témoigné qu'ils ont été harcelées. On leur demandait d'offrir leur corps pour avoir du travail. Et d'autres qui n'ont pas eu le travail, bien qu'elles ont accepté les rapports sexuels, ils n'ont pas eu de travail. Il y a d'autres qui étaient déjà au travail, mais qui étaient harcelées et qu'on menaçait de perdre le travail si elles n'arrivaient pas à céder et avoir des rapports sexuels. Donc il y a eu beaucoup d'abus et nous pensons que ce rapport va aider à ce que la communauté internationale puisse punir ces gens qui commettent ces actes. Parce que ce n'est pas juste. Il faut qu'on arrive à punir et à éradiquer ce comportement dans la communauté internationale. L'OMS s'est jetée à l'eau. L'OMS a accepté d'avoir une commission indépendante. C'est la première. Les autres agences des Nations Unies, ce n'est pas que ça se passe seulement à l'OMS. C'est toutes les agences aussi qui ont des problèmes, les organisations humanitaires aussi. Donc, ils doivent prendre leur courage et faire des enquêtes indépendantes pour relever tous ces défauts et essayer de combattre ces problèmes. Pour redorer l'image de la communauté humanitaire. C'est vraiment très important.
Alors, donc, maintenant là, vous avez déjà fait votre travail et la commission, vous vous limitez là ou bien il y aura une suite après ça?
Bon, en tant qu'activiste et les membres de la commission, on est très engagés. On a remis les recommandations à l'OMS et on va suivre. On leur a dit qu'il faut un comité indépendant qui va mettre en œuvre ces recommandations. Et nous allons chaque fois poser des questions à l'OMS pour savoir à quel niveau les recommandations ont été mises en œuvre.
Madame Julienne Lusenge, merci.
Merci beaucoup.
C'était l'invité de Radio Okapi, la coordonnatrice de la solidarité des femmes pour la paix et le développement intégral. Madame Julienne Lusenge était interviewée par Bernard Denyangui et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté.